Les passions de Camille avec Camille Chai.
Bonjour à tous, ici Camille Chai, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mes deux invités mettent leur pierre à l'édifice en contribuant à l'accessibilité pour toutes les personnes qui vivent avec un handicap, une limitation. Alors, je vous invite à découvrir les magnifiques projets de Julien Racicot et d'Isabelle Giard. Et c'est tout de suite à Les Passions de Camille. Alors, mon premier invité se nomme Julien Racicot. Il a 40 ans. Il habite sur la rive sud de Montréal, à Saint-Bruno plus précisément. Et il est le fondateur de la fondation Adapte-toi. Bonjour Julien.
Bonjour Camille.
Comment tu vas?
Très bien, merci. Toi?
Bien, merci. Je sais que tu es un homme très occupé.
Ça te fait rire. Je m'occupe à toutes sortes de choses que j'aime faire.
Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Je sais en tout cas que tout ce que tu fais, tu le fais par amour et par passion. Et puis avant de comprendre pourquoi tu as fondé la fondation Adapte-toi, eh bien j'aimerais que tu me parles de ton accident et de ton handicap.
Oui, en fait ça remonte en 1999. À l'époque, j'avais 18 ans, puis j'étais dans une période plus rock'n'roll de ma vie, si on peut dire comme ça. Et une soirée bien arrosée qui s'est mal terminée, très mal terminée même, je dirais. Je me suis retrouvé, si on peut dire comme ça, au mauvais endroit, au mauvais moment, en faculté affaiblie. Mm-hmm. Et c'est un train qui a percuté mon véhicule. Et lors de l'impact, ma quatrième vertèbre cervicale a éclaté, ce qui a causé une lésion de ma moelle épinière, qui a causé une paralysie complète. Donc, je suis paralysé des épaules aux orteils. Et, évidemment, suite à cet accident-là, quand je me suis retrouvé à l'hôpital, j'ai fait deux arrêts cardiaques. Et suite au deuxième, les médecins avaient dit à ma mère que, selon eux, même si je survivais à une troisième réanimation, j'aurais aucune qualité de vie. J'avais pas vraiment d'avenir devant moi. Et c'était préférable de me laisser aller, de me laisser mourir.
Ça ne devait pas être une décision facile du tout à prendre pour ta mère?
Ben non, évidemment. Ma mère considérait même pas ça comme une option. Mm-hmm. Et c'est ce qui l'a amenée, elle, à signer un arrêt de traitement. En quelque sorte, je peux dire que j'ai été chanceux parce que sa sœur était à l'époque infirmière en chef à l'Institut de cardiologie de Montréal et son cousin était directeur de l'urgence à l'hôpital Sacré-Cœur. Mm. Donc, après avoir signé un arrêt de traitement à l'hôpital où j'étais, sur la Rive-Sud, j'ai été transféré en ambulance. C'est l'équipe de la sœur à ma mère qui me prend en charge jusqu'à mon arrivée à Sacré-Cœur. Et à mon arrivée à Sacré-Cœur, j'ai fait un troisième arrêt cardiaque. Mm. Et là, ils m'ont réanimé. J'ai été placé sur un lit de glace, comme ils appellent, pendant un certain temps parce que ma fièvre était très élevée puis ils n'étaient pas capables de la faire baisser. Mm. Et suite à ça, ben là, s'en est suivi les opérations et toutes les interventions nécessaires pour corriger la lésion qui avait été causée puis la vertèbre qui avait éclaté lors de l'impact.
Ça a pris combien de temps à peu près de... Parce que là, en fait, tu parles de ta réadaptation. Tu as été dans le coma pendant deux semaines.
Oui, j'ai été même un peu plus de deux semaines. J'ai été dans le coma. Ça, c'est la période où j'étais à l'hôpital. Mm-hmm. J'étais à l'hôpital quand même près de deux mois. Et suite à ça, ben là, je me suis retrouvé en centre de réadaptation où j'ai été presque pendant un an, là. Premièrement, à l'IRGLM, oui. l'Institut Gingras-Lindsay de Montréal. Et suite à ça, au Centre de réadaptation Lucie Bruno.
D'accord. Et là, tu as dû réapprendre, en fait, tu as dû repartir littéralement à zéro.
Oui, effectivement. Dans le fond, c'est drôle, mais c'est comme... c'est presque le début d'une nouvelle vie, si on peut dire comme ça, parce que j'ai dû réapprendre à respirer sans respirateur. J'ai dû réapprendre à manger sans m'étouffer, parce que j'avais des problèmes de déglutition suite à à la trachéo que j'avais eue.
Oui.
Ensuite de ça, j'ai dû apprendre à rester en position assise sans faire de chute de pression. Et j'ai dû apprendre aussi, au-delà de ça, à vivre avec mon handicap, à vivre avec mes incapacités physiques, à vivre avec ma nouvelle image corporelle, avec mes... c'est ça.
Ben complètement. Puis je le rappelle, et tu avais 18 ans.
Oui. Fait que, tu sais, c'est une période... Je pense que toute notre vie, on accorde une importance à notre image, puis à nos capacités physiques. Mais quand on est dans la fleur de l'âge, si on peut dire comme ça, qu'on est actif et qu'on accorde encore plus d'importance à l'image physique qu'on dégage, ben c'est d'autant plus difficile pour ça, là.
Puis là, tu me dis que c'est difficile, d'accord, ça, je l'entends bien, mais si on va un peu plus loin, qu'est-ce que ça t'a fait vivre, toi, ton comme tu dis, tu étais dans la fleur de l'âge, est-ce que tu avais des projets, est-ce que ça t'a coupé l'herbe sous le pied, comme on dit, est-ce que...
Quand j'ai eu mon accident, je peux pas le cacher, j'étais dans une période où je me cherchais beaucoup. Et ça m'a amené à un moment donné, je dirais quelques temps là, quand même, un bon 2 ans, si on veut, après mon accident, avoir des prises de conscience, réaliser que, j'étais paralysé des épaules aux orteils, mais la vie se poursuivait. Et si je voulais m'assurer un certain avenir, puis pouvoir être heureux dans ma vie, je devais faire certains changements, je devais me prendre en main et je devais trouver des façons de le faire malgré mes incapacités physiques et malgré l'image aussi que j'avais de moi. Image, peut-être qu'on pourra en parler plus tard, mais qui a eu un impact aussi ou une incidence sur mes relations amoureuses. C'est ça. Et tout ce qui tournait autour de ça.
J'allais te dire, on peut en parler tout de suite parce que c'est une question qui se pose aussi à ce moment-là. J'imagine, au début, ça devait être un frein. Tu devais, comme tu le dis, d'abord apprendre à être bien avec toi et accepter le nouveau Julien que tu étais face aux femmes.
Ça a été un très long processus. Puis, au début... étant dépendant complètement des autres, ou presque complètement, pour manger, pour boire, m'habiller, me déplacer quand je suis pas dans mon fauteuil roulant électrique. Pour moi, c'était impossible, dans ma tête à moi, qu'une femme puisse s'intéresser à moi. Puis c'est sûr que je m'étais comme convaincu de ça, mais en même temps, je lisais pas les signes et je m'ouvrais pas... je m'ouvrais pas aux autres. En fait, je m'étais complètement fermé pour me protéger d'une quelconque façon. Mais en même temps, je passais à côté de tout un pan de vie qui était important pour moi. Mais je le savais pas encore. Puis c'est après quelques années à me couper complètement de cette possibilité-là d'avoir une relation amoureuse, d'avoir une femme dans ma vie, que je me suis rendu compte que c'était une sphère de ma vie qui était extrêmement importante et qui n'était pas comblée. Et puis là, j'ai décidé de travailler sur ça, de m'ouvrir à ça, de prendre la chance. De par mon travail, de par mes occupations, je prends des risques calculés, mais quand même, je prends des risques régulièrement, toutes les semaines, si ce n'est pas tous les jours. Mais je m'empêchais de prendre des risques au niveau amoureux.
Et, oui.
Et là, j'ai décidé de prendre cette chance-là et de me lancer, puis...
Ça a valu la peine?
Oui, ça a valu la peine. J'ai fait toutes sortes de... plusieurs belles rencontres, et ça fait plus d'un an que je côtoie une femme merveilleuse qui est maintenant ma copine. On s'est perdu de vue pendant un petit moment, mais c'était pour mieux se retrouver, puis... je je suis vraiment content du choix que j'ai fait.
Mais c'est beau de t'entendre parce qu'on voit très bien que tu le dis avec le sourire aux lèvres. Alors, on peut juste être content pour toi de t'être donné le choix de vivre l'amour.
Oui, oui, c'est ça.
Et tu parles de ton métier, tu fais quoi en ce moment?
En fait, je fais toutes sortes de choses. De façon bénévole, je dirige la Fondation Adapte-toi que j'ai fondée il y a un peu plus de 5 ans, mm-hmm. en fait, à l'été 2015. Et parallèlement à ça, pour gagner ma vie, bien, je suis investisseur immobilier. J'ai un parc d'immeubles à logement, j'ai des sites de mini-entreposage, mm-hmm. et je fais de l'investissement également. Puis j'ai, avec des associés, depuis assez récemment, en fait, depuis cet été, une entreprise de distribution d'eau de source pour la Montérégie et l'Estrie.
Donc, tous tes projets se situent dans ces environs-là, pas mal.
Oui, bien, c'est ça. C'est au niveau de l'entrepreneuriat et du développement des affaires. Et d'ailleurs, la fondation Adapte-toi avec un T à la fin, et a un certain lien quand même assez direct avec mes occupations professionnelles, étant donné qu'on est dans l'adaptation du logement.
Eh oui, ben écoute, je propose qu'on garde un petit suspense. On va en parler après la pause, mais on va aller écouter une chanson juste avant. Vivaldi et les quatre saisons. On parle de l'hiver aussi, on peut en parler. On est en plein dedans, en fait, dans l'hiver.
Et je suis toujours... C'est la saison de l'hiver. Hein?
Ben voilà. Et Julien Racicot, qui est toujours avec moi. Julien, c'est... En fait, tu adores la musique classique.
Oui, c'est quelque chose que j'ai découvert au fil des années. En fait, j'évolue dans la musique depuis que je suis tout jeune. Ma mère a enseigné le piano. Mon frère... joue du violon classique, a étudié en violon classique à l'université. Et j'ai une sœur aussi qui est beaucoup dans la musique. Donc, j'ai évolué là-dedans. Et effectivement, c'est une passion pour moi. C'est quelque chose qui me transporte vraiment. Malheureusement, là, actuellement, vu la situation actuelle, on ne peut plus assister à des concerts. Mais c'était quelque chose que j'aimais beaucoup, là, aller... quelques fois par année, voir des concerts de l'OSM, pour moi, ça me fait voyager en quelque sorte.
Mm-hmm. Je suis bien d'accord avec toi et je pense que les auditeurs le sont aussi. On a commencé à parler de ta fondation qui est un projet que tu portes avec ton cœur sans aucun doute. Eh bien, j'aimerais que tu nous en parles plus. Donc, tu nous as dit que ça fait 5 ans que la fondation existe. Et adapte-toi donc avec un T parce que oui, ça fait un petit clin d'œil donc au toit sur les maisons. Donc, qu'est-ce que tu fais exactement?
C'est ça exactement. La fondation Adapte-toi, on dit Adapte-toi, t'es où t'es? Parce que selon moi et de par mon vécu, j'ai pu voir à quel point mon adaptation personnelle a beaucoup passé par l'adaptation de mon domicile. Mm-hmm. Et je m'explique, suite à mon accident, bon, je me suis retrouvé chez mes parents. Le domicile a été entièrement adapté. Et j'ai pu voir au fil des années à quel point la redéfinition de ma vie, surtout au niveau professionnel, a été possible grâce au fait que j'ai pu évoluer dans un environnement qui était adapté à ma condition. Déjà, quand j'étais en centre de réadaptation, je voyais la disparité entre les accidentés de la route et les accidentés du travail et les autres. Malheureusement, ça créait comme deux classes. Quand je parle des autres, c'est les gens qui se retrouvaient paralysés à la suite soit d'un accident de plongeon, d'une tumeur à la moelle épinière, d'une hernie qui a causé une atteinte à la moelle épinière. Toutes des causes de lésions qui ne sont pas couvertes par un agent payeur comme la SAAQ ou la CNSST.
Toi, tu es couvert par la SAAQ?
Oui, étant donné que c'est un accident d'auto, exactement.
Mais ça fait toute la différence dans ta vie?
Ben oui, parce que c'est eux qui ont couvert et l'adaptation du domicile de mes parents et également le personnel qui vient pallier en quelque sorte à mes incapacités physiques. C'est eux qui m'accompagnent dans mes déplacements, c'est eux qui m'accompagnent dans mes rendez-vous, qui préparent différents documents pour moi, qui me font manger. C'est eux, en fait, qui font mes bras, mes jambes. Mm-hmm. Et comme je le dis à la blague, des fois, même ma tête par moment. Donc, ils jouent un rôle très important dans mon quotidien. Et c'est avec cette envie-là de redonner au suivant, l'envie de d'offrir cette chance-là à des personnes qui n'avaient pas la chance que j'ai eue, en fait, que j'ai mis sur pied, pour pas faire de mauvais jeu de mots, la Fondation Adapte-toi.
Et je veux dire, la demande, elle est criante. Tu l'as toi-même vu en côtoyant des personnes qui, comme tu l'as dit, n'ont pas de blessure médulaire, de la même façon que toi nécessairement. Mais on entend clairement dans ce que tu dis, Julien, que tu as une énorme reconnaissance envers tous ces personnels, ce personnel de la santé, mais ces professionnels aussi. Je veux dire, ça a commencé pour toi avec même la jante, en fait, à la SAAQ, la première personne avec qui tu as eu un contact. Mais c'est ça, c'est tellement beau de voir à quel point ces gens font maintenant partie de ta vie et au quotidien, mais c'est important de leur accorder cette reconnaissance.
C'est important. En tout cas, pour moi, c'est important parce que ils ont joué un rôle déterminant dans ma vie et c'est grâce à eux, en quelque sorte, que je suis rendu où je suis rendu maintenant. Là. Mm-hmm. Tu fais mention de mon agent d'indemnisation à la SAAQ. Ça a été la première à croire en moi et à croire que, malgré que j'étais paralysé des épaules aux orteils, je pouvais encore faire quelque chose de ma vie. Et maintenant, après près de 22 ans, je suis à même de le constater, Mais à l'époque, j'y croyais pas du tout. Et c'est elle qui m'a poussé à me dépasser un peu. Puis c'est ça.
Mais c'est une très belle vision de la chose, comme quoi ça prouve dans ton discours, mais non seulement ton discours, mais ton expérience de vie. On a beau avoir une vision de la vie quand un événement tragique nous arrive, tu nous prouves bien à quel point les situations peuvent évoluer, changer et pour le mieux. Mais en même temps, j'aimerais que tu me parles des aberrations et des injustices, parce que tu dois être au courant de beaucoup de choses et de beaucoup de détails dans la vie des personnes qui ont besoin d'adapter leur milieu de vie. J'imagine que c'est pas tout beau et tout rose partout.
Non, malheureusement, c'est souvent très compliqué. Et justement, un des objectifs, si on peut le dire comme ça, que la Fondation Adapte-toi s'est donné au travers de sa mission, c'est d'intervenir le plus rapidement lorsqu'on a une demande, parce que malheureusement, ce qui arrive trop souvent, c'est que les gens se retrouvent en centre de réadaptation, font leur réadaptation, gagnent en mobilité, et par la suite, quand leur réadaptation se termine, ils se font renvoyer chez eux, mais le système est tellement lent que souvent, les personnes se retrouvent chez eux avant même que les adaptations aient été faites. Et là, les personnes se retrouvent prisonniers, en quelque sorte, de leur domicile et ne peuvent même plus aller poursuivre leur réadaptation en clinique externe. Et là, ben, à cause de ça, perdent leur acquis, perdent en mobilité. Et là, c'est tout un cercle vicieux qui s'installe. Puis, c'est la raison pour laquelle on s'efforce d'intervenir le plus rapidement pour au moins combler les besoins essentiels afin d'accélérer justement l'adaptation du domicile pour s'assurer que la personne puisse au moins accéder et sortir de son domicile librement. Ça a un impact également au niveau de l'inclusion, au niveau du rôle social de ces personnes-là, parce que c'est important de le mentionner, je pense, malgré qu'on se retrouve paralysé suite à une lésion de la moelle épinière, la vie ne se termine pas là. Et notre besoin de sentir qu'on contribue à la société, peu importe la façon, à demeure. Là. Donc, de pouvoir accéder au monde extérieur, de pouvoir aller socialiser. Là, c'est sûr qu'actuellement, on vit en période une période particulière, mais ça demeure quelque chose d'extrêmement important. De là, l'importance de l'adaptation du domicile.
Bien sûr, parce que vous êtes des êtres humains avant tout. Et toi, j'aimerais savoir quelles sont les adaptations que tu as chez toi pour qu'on ait une idée à quel point ça peut passer par des détails auxquels on ne penserait même pas?
Ben, des petits détails. Il faut se rappeler, surtout quand on se promène en fauteuil roulant électrique, le fauteuil est assez large. Donc, l'élargissement des portes, normalement, les portes standard dans un domicile, on parle de 32 pouces. 32-34 pouces, là, dans un domicile adapté, ça va aller plus vers du 36 pouces. Ça peut paraître banal, mais c'est quand même quelque chose d'hyper important. À ça peut s'ajouter évidemment ouvre-porte selon les besoins, plaque élévatrice ou rampe d'accès à l'avant du domicile. Lorsque la personne a l'usage de ses bras, de ses mains, du dégagement sous les comptoirs pour pouvoir cuisiner, pour pouvoir se brosser les dents dans la salle de bain, pouvoir accéder au robinet puis à la vanité. La même chose au niveau de la douche. Une personne qui n'a pas totalement ou qui n'a pas du tout l'usage de ses bras ne pourra pas se transférer dans un bain régulier. Donc, elle a besoin d'avoir une douche sans seuil, une douche qui est à même le sol, qui peut être accédée, qui peut être utilisée avec un fauteuil de douche qu'on appelle. Donc, ça aussi, c'est une adaptation très importante. Et c'est des adaptations qui permettent à répondre à des besoins essentiels de la vie. Là. On parle de se laver, de s'alimenter, de socialiser. Donc, je pense que ça répond à des besoins de base. Et de là, l'importance de répondre.
Complètement. Et Julien, tu es aussi, à travers tout ça, un homme qui beaucoup d'humour, ou en tout cas, t'as appris à tourner un petit peu, à ne pas avoir peur du ridicule, et je veux qu'on en profite. Est-ce que t'as une anecdote à nous raconter?
Oui, j'en ai une. Il faut juste, je tiens à aviser les gens, attention au cœur sensible parce que on va parler d'urine ici. Mais c'était en 2017, j'allais donner une conférence devant un groupe d'investisseurs immobiliers. Il y avait à peu près 250 personnes à Québec. Et je dirais une dizaine de minutes avant de me présenter à l'avant du groupe, je me rends compte. En fait, je dois faire une parenthèse. Moi, je porte un condom urinaire, ce qui veut dire que j'ai une vessie réflexe. Quand il y a une certaine quantité d'urine dans ma vessie, elle se déclenche par elle-même et j'urine. Mm-hmm. Évidemment, je peux pas me lever pour aller à la toilette, donc j'ai un condom qui colle où ça doit coller. Et au bout, au lieu d'être fermé, ben, c'est une espèce de petit tuyau sur lequel je connecte un sac qui est attaché sur ma jambe. Et là, ce fameux condom-là, 10 minutes avant ma conférence, a décidé de lâcher. Et imaginez-vous, j'avais des beaux pantalons beige pâle. Donc, j'avais un beau rond mouillé sur mes pantalons. Et évidemment, je ne me voyais pas annuler à la dernière minute mon intervention. Donc, j'étais avec une employée. On est monté en vitesse dans notre chambre d'hôtel qui était juste au-dessus de la salle de conférence. On a mis du parfum un peu. On a mis un foulard que j'avais. C'était l'hiver.
Pour camoufler.
On a mis un foulard pour camoufler. Mm. Et malgré que j'avais pas besoin de mon carnet de notes, j'ai mis mon carnet de notes sur mes jambes, sur mes cuisses, pour faire un peu, pour cacher
diversion,
un peu plus. Diversion,
oui.
Oui, c'est ça, pour faire diversion. Puis je me suis présenté devant le groupe comme si de rien n'était. J'ai donné ma conférence, puis ça a été un succès. En fait, à la fin, je parle toujours un peu de la fondation, mm-hmm. puis j'invite les gens à donner. Puis on avait ramassé quelque chose comme 300-400 $ de dons ce soir-là. Donc, malgré tout, ça s'était bien déroulé. Puis j'en parle maintenant avec le sourire.
Oui, exact.
Mais il faut que je le dise, quand c'était arrivé...
C'était pas si drôle que ça.
C'était vraiment pas drôle,
oui.
Non, c'est ça.
On peut bien comprendre, mais t'as terminé ça en attitude de champion. Et pour terminer, je le dis, hein, c'est tes mots, mais t'aimes bien toujours dire que le pire handicap qu'on a, eh bien, il peut être entre nos deux oreilles. Il est entre nos deux oreilles seulement. Donc, il n'en tient qu'à nous d'avoir l'attitude gagnante qu'on peut choisir nous-mêmes. Merci infiniment, Julien Racicot, et au plaisir.
Merci à toi, Camille. Au plaisir.
Et restez avec nous, parce qu'après la pause, on reçoit Isabelle Giard. À tout de suite.
Vous écoutez Les Passions de Camille avec Camille Chaille.
Et oui, ici Camille Chaille, je suis avec vous pour la prochaine demi-heure en compagnie de ma deuxième invitée, Isabelle Giard. Elle a 34 ans. Elle est agente administrative au centre de réadaptation, le Centre Montérégie. Et elle a aussi créé dernièrement sa chaîne YouTube Caroule. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Comment tu vas?
Ça va bien, toi?
Très bien, merci. Alors, Isabelle, j'ai hâte d'apprendre à te connaître et à te découvrir. Et j'aimerais, pour commencer, que tu me parles de ton handicap.
Oui, j'ai le spina bifida niveau L3. Donc, c'est une malformation de la colonne vertébrale.
D'accord. Et qu'est-ce que ça a comme impact dans ta vie au quotidien?
Depuis la naissance, là, j'ai eu plus d'une vingtaine de chirurgies. Là, j'ai été plus jeune, là, j'ai pu marcher un peu, donc avec des béquilles canadiennes. Puis, par après, j'ai eu une opération importante en 1998 pour la fusion du dos. Donc, j'ai une tige de métal. Donc, maintenant, je me déplace là, surtout en fauteuil roulant manuel. Juste en fauteuil.
Et là, j'imagine évidemment que c'est la situation idéale dans ton cas. La tige de métal doit t'aider à te tenir plus droite ou peut-être à éviter des douleurs au dos?
Oui, exactement. C'était pour faire plus là, de bien là, justement à ma façon. Puis je me débrouille bien là, en fauteuil. Puis, ouais.
Est-ce que tu as des frères et sœurs?
J'ai deux demi-frères.
OK, quand même. Et ton lien avec eux, je dirais, j'imagine que le début dans ton enfance, je ne sais pas si tes demi-frères étaient déjà présents dans ta vie, mais je voulais savoir si ça avait un impact dans ta relation avec eux.
Oui, ben c'est sûr que c'est ça, c'est du côté de mon père, donc c'était surtout là les fins de semaine et tout, là, donc oui, une bonne relation.
Et là, donc, en fait, j'aimerais savoir, parce que ton titre d'agente administrative au centre de réadaptation, tu y fais quoi exactement?
C'est ça, je suis agente administrative là, pour surtout dans la réadaptation au niveau adulte, là, donc pour le programme URFI. Donc, les gens, il y a un programme que les gens ils restent à l'interne et d'autres à l'externe. Donc, je fais surtout là, j'aide l'équipe là, administrative au niveau de plusieurs tâches.
Je sais que, donc, avant, tu travaillais aussi au niveau des permis de conduire?
Oui, à mon autre emploi aussi également là, pour. Oui, pour agent administratif également au programme conduite automobile. Oui.
Est-ce que tu conduis une voiture, toi?
Non, pas pour l'instant. J'utilise plus le transport adapté. C'est peut-être plus. Pour l'instant, ça me convient. Donc, je vais voir peut-être éventuellement, mais pour l'instant, je n'ai pas le besoin là, de conduire.
Parce que, est-ce que tu sais ce que ça demanderait pour toi comme adaptation si un jour tu dis non, là, ça y est, j'ai envie de conduire ma propre voiture? Est-ce que c'est un processus qui serait complexe?
Ça pourrait se faire. Là. Donc, étant dans le programme, là, j'ai pu voir là, les possibilités et tout, ce qui était. Donc, oui, c'est des démarches qui peuvent être faites, là, tout à fait. Oui, les possibilités.
À ce niveau-là.
Oui.
Et là, donc, en ce moment, j'aimerais que tu nous parles de ta page YouTube parce que je comprends bien que c'est un projet qui te tient à cœur et tu le fais avec passion. Mais j'aimerais que tu nous fasses un peu voyager ou découvrir des endroits que tu as toi-même découverts et testés. En fait, quel est le but ou la mission de cette page YouTube?
Oui, ben donc ma chaîne sur YouTube, ça roule. Ça a commencé l'été dernier. J'étais avec mon conjoint là en vacances là, camping. Donc, on a décidé là, de tourner ça et de voir comment c'était là, pour personne avec un handicap, donc, les adaptations qu'on a faites.
Parce que tu aimes beaucoup la nature?
Oui. J'ai peut-être pas tant le camping, mais j'ai appris à redécouvrir là, cette activité qui est super plaisante, là, surtout avec les adaptations quand c'est possible. Là, c'est vraiment super. Ouais.
Et alors, ça ressemble à quoi ta première expérience de camping? Qu'est-ce que tu as vécu?
Donc, c'était bien. C'était avec sur un site de la CEPAC, donc un beau site. J'ai eu un lit de camping, justement, que quand j'ai fait les scouts plus jeunes. Donc, j'ai eu un petit aperçu. Donc, avec le lit de camp, une tente assez grande et tout. Puis le terrain là, qui était assez bien accessible et tout. Donc, c'était vraiment bien pour faire plusieurs activités. Puis, passer un beau séjour.
Au niveau des détails un petit peu plus techniques et du matériel, là, tu parles du lit.
Oui.
Est-ce que tu as besoin de d'autres matériels auxquels on pense pas, mais qui pour toi améliorent vraiment ton expérience de camping?
Mais c'est ça que la tente, c'est ça, on a vraiment figuré là, pour une tente qui est assez grande, donc pour 4 personnes, même si on était 2.
Okay.
Donc, c'est d'avoir justement la place pour le lit de camp, pour qu'il soit placé vraiment sur le côté de la tente pour que je puisse transférer là, de mon fauteuil au lit de camp directement.
Mm-hmm.
Puis, c'est ça, donc la table de pique-nique aussi, au site où est-ce qu'on était, il y avait un espace un petit peu plus grand mais que je pouvais me mettre là, directement en dessous. Donc, ça, j'ai vraiment trouvé ça génial. Puis, c'est ça, c'est vraiment la tente, puis les installations là-bas, là, la salle de bain et tout, c'était accessible. Donc, je fais toujours la vérification là, en ligne, puis je m'informe là, aussi par téléphone aux endroits pour voir si c'était bien adapté avant le séjour.
Et justement, quand tu dis que tu appelles avant, parce que c'est des enjeux que les gens rencontrent beaucoup quand on parle d'accessibilité des lieux, beaucoup de personnes disent qu'elles appellent, elles se font dire que oui, les lieux sont accessibles,
ouais.
Mais souvent, les personnes, quand elles arrivent, elles ont des mauvaises surprises. Qu'est-ce que tu as à dire à ce niveau-là?
Oui, c'est sûr que c'est sûr, le terme accessible est peut-être relatif, là, selon surtout comme pour les salles de bain et tout, les espaces là, un petit peu plus restreints, c'est arrivé là, à des endroits. Donc, ça, c'est un petit peu plus frustrant à ce moment-là. Donc, c'est vraiment de revérifier, puis vraiment d'aller voir souvent sur place là, avant si c'est possible, ou d'avoir une connaissance justement qui peut y aller également là, pour vérifier vraiment si c'est accessible. Là. Ouais, parce que c'est ça ne l'est pas toujours entièrement.
Non, malheureusement.
Non.
Et cette découverte que tu fais de tous les lieux, est-ce que tu as eu la chance de les faire dans les 4 saisons?
L'hiver, j'ai pu faire une activité qui était là, dans ma région, donc que j'ai pu faire. Sinon, l'hiver, c'est un petit peu plus restreint. Par
Oui.
contre, ça peut se faire. C'est plus l'été, l'automne, dans les parcs ou quoi que ce soit. Quand j'ai filmé là, mes visites au parc, quoi que ce soit, c'est plus facile. C'est ça, quand il n'y a pas de neige, c'est
Oui.
un enjeu, c'est sûr.
J'imagine, hein, tout le monde le dit, quand on est en fauteuil roulant, et même sans fauteuil roulant,
Oui.
mais juste avec une prothèse,
Ouais.
l'hiver, ça reste l'hiver.
Oui, exactement. Oui, avec l'hiver qu'on a au Québec, là, ouais, c'est pas toujours évident.
Et donc, toi, tu habites à Vaudreuil, qui est un magnifique coin.
Oui, tout à fait, oui, j'adore.
T'as visité combien de lieux jusqu'à maintenant qu'on peut voir sur ta chaîne?
C'est peut-être 5 lieux environ,
OK.
beaucoup de parcs, quoi que ce soit aussi, le camping, justement, qui était dans la région, un parc à Hudson, sinon un peu avant, parc Mont-Saint-Bruno, que j'ai été. Puis ouais, plusieurs aussi activités là, de paddleboard adaptées que j'ai adoré. J'ai vraiment adoré ça. Ouais.
Et ton endroit préféré, ce serait lequel?
Ben, je dirais quand j'ai essayé le paddleboard, ça c'était mon activité là, préférée. C'était plus du lieu exactement, mais ouais, c'était l'activité en tant que telle là, que j'ai vraiment adorée.
Eh bien, et puis j'aimerais que tu nous l'expliques parce que les gens qui ne savent pas déjà le paddleboard, c'est donc sur une longue planche. D'habitude, les gens sont debout. Et ils ont une pagaie, ou alors on peut être à genoux sur cette planche, mais dans ton cas, puisque tu es en fauteuil roulant, comment ça se passe pour toi?
Mais c'est ça, c'est un concept justement qui a été au Québec. Je pense que c'était la première planche adaptée. C'est deux planches, puis que je peux embarquer directement sur la planche avec mon fauteuil. Donc, elle est pas mal plus large.
Oui.
Puis il y a des balloteurs également là, pour empêcher là, de tomber, justement. Donc, c'est très, très solide et avec le bâton là, de pagaie.
Et ça, tu l'as découvert où, le paddleboard? C'était sur une rivière, dans un lac?
C'était à Lachine, un
Ah,
parc à
mais oui.
Lachine, à une activité, c'est ça qui avait été organisé. Ouais, c'était vraiment beau. Puis non, j'ai vraiment adoré au début. C'est sûr qu'on sent moins sécure, c'était le ballon et tout ça, mais
Oui.
c'est vraiment très, très solide et très. Ouais, j'ai vraiment adoré ça, la liberté d'être sur l'eau et tout.
Mais si
Ouais.
je comprends bien, donc, tu n'es pas tombé du tout?
Non, pas exactement. Non, j'ai vraiment adoré.
Et t'as l'aide des personnes aussi qui j'imagine,
Oui,
les
oui,
moniteurs ou les
oui.
gens avec qui tu le
Oui.
fais sont là pour t'aider à
Oui.
manœuvrer en cas de besoin.
Oui, exactement, là, avec tous les moniteurs et tout pour s'assurer là, que c'était bien, bien stable et tout, puis de m'accompagner là, sur l'eau tout le long de l'activité.
Ça me permettait de garder la tête haute et c'est un petit clin d'œil que je fais à la chanson qu'on va aller écouter tout de suite. On se retrouve après.
Sunset bills on my mindset. I can't deny it. Getting higher, higher than my income. Income's breadcrumbs. I've been trying to survive. The glow that the sun gets right around sunset helps me realize that this is just a journey. Drop your worries. You are gonna turn out fine. Oh, you turn out fine. Fine. Oh, you turn out fine. But you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey. You gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey. I know it's hard, no, it's hard to remember sometimes. But you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down, hey. I got my hands in my pockets, kicking these rocks. It's kinda hard to watch this life go by. Buying into skeptics, skeptics mess with the confidence in my eyes. I'm seeing all the angles, stars get tangled. I start to compromise my life and my purpose. Is it all worth it? Am I gonna turn out fine? Oh, you turn out fine. Fine, oh, you turn out fine. But you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down. Your head down.
let your hair down. Hey, hey, hey. Only rainbows after rain. The sun will always come again. And it's a circle, circling around again. It comes around again. I say only rainbows after rain. The sun will always come again. And it's a circle, circling around again. It comes around, but you gotta keep your head up. Oh, and you can let your head.
C'était Andy Grammer et sa chanson « Keep your head up ». Et Isabelle, c'est une chanson qui t'inspire particulièrement.
Oui, je trouve que c'est une chanson positive et tout, de regarder à l'avant, puis de ne pas se laisser justement avec les défis et tout, mais de continuer, c'est ça.
Mm-hmm. Et c'est ce que tu, en fait, tu en parles aussi, ben en fait, juste naturellement à travers ton attitude dans les vidéos, les capsules vidéo que tu fais sur ta chaîne YouTube « Zaroul ». Là, je veux absolument que tu nous dises d'où vient le nom Zaroul. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est une de mes meilleures amies qui me surnomme Zaza, donc Isabelle, puis Roul. Donc, je voulais faire un mélange des deux, donc puis faire ça assez court. Ouais, donc, c'est de là que c'est venu le nom.
C'est très beau, en fait. C'est original, parce que quand on demande tout le temps, on peut se demander comment ça va, ça roule. Mais toi, tu nous réponds, oui, Zaroul.
Oui, c'est ça, exactement.
C'est, tu mets ta petite touche.
Oui, exact.
Et on parlait un peu encore ben, tout à l'heure de, des lieux que tu as visités. Est-ce qu'il y a, dont tu m'as parlé du paddleboard, est-ce qu'il y a d'autres découvertes d'activités surprenantes auxquelles tu t'attendais pas du tout, que tu connaissais pas? Est-ce qu'il y en a d'autres que tu pourrais nous nommer qui seraient intéressantes à découvrir?
Mais c'est sûr que les parcs, le parc Jack Layton, que c'est un magnifique parc à Hudson, que j'ai adoré sur le bord de l'eau et tout, puis qui est connecté aussi à Sandy Beach, donc c'est comme un deux en un, donc c'est vraiment très beau. Puis aussi là, le parc national du Mont-Saint-Bruno aussi, pour faire de la randonnée, qui était un bon exercice. Là,
mais j'imagine.
Super, oui.
En général, quand tu fais tes randonnées, tu peux les faire pendant combien de temps, en fait? Quelle est ta capacité physique? Parce que j'essaie de m'imaginer en fauteuil roulant, bon, ça va être beaucoup tes bras et ton haut du corps qui vont travailler, mais quelle est ta limite?
C'est sûr, j'essaie. Peut-être un 20 minutes, mais c'est surtout j'ai mon conjoint qui peut me donner un petit coup de main aussi si j'arrive à être essoufflée, mais j'essaie de le faire le plus possible. Ça me tient en forme. Puis, puis aussi que je fais du CrossFit aussi adapté à Vaudreuil. Donc, j'essaie de me tenir en forme le plus possible.
Ben, complètement. Et d'ailleurs, sur ton site aussi, les gens, comme ils savent que tu t'entraînes, tu fais des exercices, les gens ont même tendance à te poser des questions pour avoir d'autres idées d'exercices à faire à la maison.
Oui, tout à fait. Donc, c'est dans mes prochaines vidéos là, que je veux tourner là, pour des exercices un petit peu plus adaptés pour tout le monde aussi. Essayer de varier, là, mais je pense que le thème là, de l'exercice est assez populaire, j'ai l'impression. Donc, je pense en faire là, une thématique quand même qui revient là, tous les mois environ.
Et parlant d'une autre nouveauté que tu veux ajouter à ce projet, tu es aussi une passionnée de lecture et d'écriture.
Oui, tout à fait. Donc, j'ai débuté là, à mettre un site web en lien avec le Zaroul, donc qui n'est peut-être pas finalisé, mais c'est sûr que j'aime la lecture et l'écriture. Donc, c'est ça, ça serait un rêve là, d'écrire un livre là, éventuellement. Là, j'essaie de voir la version électronique, mais aussi peut-être la version papier.
Et ce serait une autobiographie ou ce serait beaucoup ce que tu partages par rapport à l'accessibilité des lieux aussi?
Oui, c'est ça. J'hésite entre plusieurs termes, donc c'est autobiographie, certains endroits aussi, puis peut-être aussi pour les exercices aussi, là, faire certaines thématiques comme ça. Donc, c'est en tête là, dans mes projets futurs.
Mais tu es aussi pleine de surprises parce que là, non seulement tu es passionnée par toutes les activités que tu nous as nommées, mais tu aimes aussi particulièrement la mode.
Oui, tout à fait. Depuis que je suis jeune, je pense que j'ai comme un intérêt pour la mode, les défilés ou quoi que ce soit. Puis récemment, via Zaroul, j'ai pu contribuer à un blog Calomode. Donc, c'est une ergothérapeute qui a conçu, là, c'est un blog écrit sur la mode adaptée. Donc, ça me rejoint. C'est vraiment là, un plaisir de pouvoir collaborer là, avec elle à ce blog.
Donc, ouais. Le site Kahlo, c'est K-A-H-L-O?
Oui, K-A-H-L-O. Oui, ouais.
Et j'aimerais que tu m'en parles un peu parce que, je veux dire, adapter les vêtements pour les personnes handicapées... On n'y pense pas nécessairement, mais le besoin est là. Et je te le dis parce que moi-même, je suis concernée parce que comme il manque un bras, j'ai dû moi-même faire modifier tous mes chandails et mes vestes pour être justement mieux dans ma peau et mieux dans mes vêtements. Mais quelles idées de création vous avez ou quel autre type d'adaptation est-ce que vous proposez justement sur ce site?
C'est sûr qu'on rassemble, on essaie de voir là, soit les compagnies qui font déjà des vêtements adaptés. C'est surtout aussi de textes d'opinion, de voir qu'est-ce que la mode représente pour nous. Puis c'est sûr que je rêverais de faire là, vraiment une lignée de mode adaptée. Ça peut coûter un petit peu cher, mais vraiment parce qu'il y en a des vêtements adaptés, mais selon peut-être la clientèle, peut-être jeune adulte, j'aimerais ça peut-être faire un concept là, de mode adapté, une ligne de mode. Là. Ouais.
Parce que par exemple, pour toi, qui es en fauteuil roulant, en fait, les vêtements normaux que tu portes comme ça, quel inconfort est-ce qu'ils te causent?
Mais c'est sûr que les pantalons, je dois magasiner un petit peu plus là, pour justement être en assise, qu'ils soient assez hauts, assez confortables et tout. Puis aussi pour les souliers, je porte des orthèses également là, juste avant le genou. Donc les souliers, c'est toujours là, un petit peu complexe à magasiner.
Parce qu'ils doivent être plus grands pour que ton orthèse rentre dedans?
Exact, oui, exact. Donc souvent, c'est toi, souvent peut-être dans les hommes ou dans les boutiques là, orthopédiques ou quoi que ce soit aussi que je dois avoir là. Mais c'est ça, j'aimerais, c'est sûr, un petit peu plus stylé ou quoi que ce soit. Donc
Donc, j'imagine que toi, l'expression « être en mou », j'imagine que c'est pas le... t'es pas une fervente de ça, oui?
Oui. C'est juste c'est ça. J'aimerais ça voir, c'est ça, plus de, peut-être de style ou côté comme ça pour la mode adaptée. Là. Ça serait mon rêve là, d'avoir ça.
Pouvoir vivre un peu plus ta féminité.
Ben oui, exactement.
Puis justement, parlant de féminité, du regard des autres, est-ce que tu as déjà vécu des malaises ou eu des moments où le regard des autres pouvait te créer quelque chose ou un inconfort?
C'est sûr que c'est peut-être plus au primaire là, avec les jeunes, les compréhensions souvent là, du handicap, quand ils ne savent pas nécessairement. Donc, c'est sûr, le primaire, secondaire était peut-être un petit peu plus complexe. C'est ça, j'ai réussi là, quand même là, avec des amis proches et puis mes parents, ma mère, mon beau-père et tout, puis mon père là, de passer au travers. Mais c'est sûr que c'est étant plus jeune, les enfants, on les regarde des fois, là, c'est pas toujours évident.
Comment tu gérais ça en face à face avec eux? Est-ce qu'ils venaient te poser des questions? Est-ce qu'ils te pointaient du doigt?
Oui, il y en a qui me posaient des questions, quoi que ce soit. Étant je suis quelqu'un de plus réservé, donc nécessairement, c'est ça, j'essaie peut-être de leur parler de seul à seul, mais c'était plus les regards ou quoi que ce soit, là, donc,
Aujourd'hui, j'imagine que, tu le vis d'une manière différente.
Exact, oui, tout à fait. Puis, c'est plus des questions, des interrogations des gens, c'est ça, je veux pas qu'ils se sentent du tout gênés, là, de me poser des questions ou quoi que ce soit, là, ça me fait plaisir, là, justement, de m'enseigner sur mon handicap et tout, là.
Puis tu nous parlais tout à l'heure du transport adapté. Je sais que c'est pas toujours l'idéal quand on utilise les transports adaptés. Il y a souvent la notion d'attente qui peut être un petit peu pénible. Toi, tu l'as déjà vécu?
Oui, non, c'est sûr que surtout l'hiver, dans des tempêtes de neige ou quoi que ce soit, les retards, c'est sûr que ça, c'est un petit peu plus frustrant, là. L'attente, j'attendais pas nécessairement dehors, mais ça peut être long là, selon les voyagements là. Donc, c'est ça que je rêverais d'avoir un transport là, où on pourrait aller là, un petit peu plus un peu partout, un petit peu plus librement. Là, ça serait
l'idéal.
Oui, vraiment bien, oui.
Et je pense aussi à toi qui est donc toujours dans ton fauteuil roulant. Il y a souvent des personnes aussi qui parlent de... en fait, quand tu arrives dans un lieu, le fait que tu sois plus basse, au niveau des comptoirs aussi d'accueil, ça peut être un enjeu, ça aussi, des fois?
Oui, souvent, c'est ça, pour remettre des cartes ou quoi que ce soit. Là, c'était peut-être pas directement à moi, mais c'est ça. C'est un petit peu plus complexe à ce moment-là quand les comptoirs sont hauts, qu'il y a des tabourets ou quoi que ce soit au restaurant. Donc, c'est moins évident, oui.
Est-ce qu'il y a des moments où ton handicap a été un avantage?
Un avantage. J'ai souvent été la première là, soit dans une école, j'étais la seule, ou dans des camps de jour. Donc, je pense que ça a peut-être ouvert les portes, ouvert les yeux là, pour les différences ou les adaptations qui peuvent être faites, de réaliser des fois là, pour ceux qui ne sont pas dans la situation là, de comment ajuster, puis rendre ça agréable pour tout le monde aussi. Ouais.
Et si je te demandais ta plus grande fierté, est-ce que tu as une idée en tête? Qu'elle soit petite ou grande, hein, parce que souvent on cherche quelque chose d'énorme, mais c'est pas obligé d'être quelque chose de gros.
Non, mais c'est sûr que ma chaîne YouTube, ça me sort de ma zone de confort, donc c'est sûr que je suis contente de ce projet-là, puis d'avoir de justement être où est-ce que j'en suis, justement ma mère là, qui est un super modèle pour moi là, de foncer dans la vie. Mm-hmm. Donc vraiment.
Et puis pour ta chaîne YouTube, donc Zaroule, tu me disais que ton conjoint t'aide beaucoup, oui, quand tu vas sur les sentiers ou dans les lieux pour t'aider à avancer, mais c'est aussi lui qui fait les qui est le caméraman, entre autres.
Oui, exactement. Donc, lui, il aime les photos et tout, puis il a découvert, c'est une passion qu'on a, là, donc encore moins qu'on fait ça comme projet, là. Oui, c'est vraiment, vraiment agréable.
Et là, je te pose une question piège. Parce que comme on parle d'accessibilité, pour ta chaîne YouTube, est-ce que tu penses, dans un projet peut-être de la modifier ou de la faire évoluer, justement de la rendre accessible aussi aux personnes, par exemple, qui sont non-voyantes?
Oui, tout à fait. Oui, ça serait à voir là, les possibilités, justement. Je suis en train de voir là, pour les sous-titres, mais également là, de voir également là, à rendre vraiment accessible là, pour tout le monde. Là. Donc oui, ouverte aussi aux suggestions, quoi que ce soit aussi pour que tout le monde aurait là, pour m'aider ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Ouais.
Puis sachant que tu as été scout dans ton enfance, quelles sont les valeurs que tu as retenu, que tu as gardé au fond de toi, parce que le fait que tu aies découvert plein de lieux, j'imagine que ça doit te ramener à cette époque-là, à ton enfance, mais je sais que dans les scouts, il y a souvent des belles valeurs, lesquelles toi t'as retenu?
Oui, bien c'est sûr que la débrouillardise, là, je pense que même ça avec les scouts et le handicap aussi, je pense qu'on se trouve des petits trucs, puis je pense que c'est ça, le respect, d'être entouré là, de tout le monde, d'être un bon cercle. Puis je pense que c'est ça, surtout
l'important.
De bonnes valeurs.
Est-ce qu'on peut savoir quel était ton nom de scout?
Je pense pas que j'en avais un. C'est très loin, je m'en rappelle plus vraiment.
C'est vrai?
Non. Oui, je m'en rappelle plus exactement.
C'est pas tant l'important pour toi.
Mais non, c'est ça. C'était vraiment une belle expérience.
J'imagine. Parce que tu le dis toi-même, hein, que c'est important de faire partie de groupe, justement, le sentiment d'appartenance. En fait, je sais que tu fais aussi partie de l'association de Spina Bifida. C'est quelque chose, c'est un plus pour toi dans ta vie?
Oui, c'est sûr que je vais moins là, nécessairement aux réunions ou quoi que ce soit, mais j'ai accès à plusieurs ressources là, qui sont très, très pratiques là, via leur site Internet, puis les communications, quoi que ce soit. Donc oui, c'est important pour moi, là, c'est sûr, d'en faire partie, là, puis de pouvoir contribuer d'une façon ou d'une autre là, à cette belle communauté, oui.
Quel conseil tu donnerais aux personnes qui ont un handicap quelconque pour les aider à être mieux dans leur peau?
Je pense que c'est vraiment de foncer. Je sais que moi, j'en apprends aussi tous les jours à plus foncer, à plus m'affirmer ou quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est vraiment de ne pas hésiter là à demander de l'aide. Je pense que c'est ça plus simple. Donc, ouais, c'est demander de l'aide quand on en a besoin, puis vraiment de bien s'entourer. Donc, de pouvoir bien s'affirmer et tout.
Merci infiniment, Isabelle Giard, pour ces beaux conseils et cette belle entrevue. Tu nous as donné plein d'idées et plein de projets à faire quand il fera plus beau et plus chaud, évidemment. Mais merci beaucoup, Isabelle.
Oui, merci à t'en avoir aussi.
Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'être avec nous. Et je remercie mon équipe, Mathieu Tessier à la mise en onde, Claire Guérin, ma recherchiste, Jean-Sébastien Laliberté à l'habillage sonore. Et je vous invite toujours à reconsulter le site www.canalm.vusezvoix.com pour réécouter les émissions et aussi sur les sites de diffusion de balado, Google Podcast, Apple Balado et Spotify. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à la prochaine!